Madame, Monsieur, bonjour. Transversal, le magazine de reportage de la rédaction. Avec aujourd'hui le troisième volet d'une série exceptionnelle de reportages proposée par Florence Bellone sur la volonté des services sociaux britanniques de confisquer des enfants aux familles modestes pour les confier à l'adoption. Dans ce troisième volet, Florence Bellone se concentre sur le système lui-même. La plupart des officiels qui en ont la responsabilité ont refusé de la rencontrer, mais elle a joué carte sur table et n'a pas essayé de leur dissimuler son identité ou ses précédents reportages, ni de les rencontrer avec un micro caché. Certains ont parlé avec méfiance et prudence, beaucoup d'autres ont refusé. Vous entendrez aussi le témoignage de parents à qui on a tenté d'enlever leur enfant et qui n'ont pas eu d'autre choix que celui de fuir. Enfin, vous rencontrerez par la magie des ondes un couple de Belges qui a recueilli une mère britannique sur le point d'accoucher pour que son enfant échappe au système. Vous écoutez Transversal, bienvenue à vous.
Transversal, Marie-Laure Stézel.
Et c'est donc avec ce reportage exceptionnel de Florence Bellone que nous ouvrons Transversal aujourd'hui. Les principaux sujets qui seront traités dans ce reportage sont l'illégalité et la corruption du système britannique qui use de tous les arguments possibles pour s'emparer de bébés sans preuve de maltraitance et d'autre part le détournement de la loi par les services sociaux quand un obstacle légal se présente. Ainsi, ils vont jusqu'à traquer les bébés de parents britanniques à l'étranger ou des enfants étrangers enlevés à leurs parents expatriés en Grande-Bretagne. On écoute ce reportage réalisé grâce à l'aide technique de Jean-Marc Virzet.
Au-dessus de l'île, on voit des oies.
Asha est atteinte d'une forme légère de paralysie cérébrale qui, selon les travailleurs sociaux, affecte son intelligence. Nous arrivons à l'hôpital à 6h du matin, au titre d'amis de la famille, avec Asha et Paul, son mari, une semaine avant la date calculée de la naissance de leur fille Willow. Une assistante sociale a pris rendez-vous pour un accouchement provoqué selon les besoins de son planning. Dans la salle d'accouchement, au milieu du va-et-vient des sages-femmes, Asha tâche de se concentrer sur les gestes qui donneront la vie. Paul ne peut cacher sa nervosité. Une sage-femme, visiblement expérimentée, procède à la rupture des os. Une autre, jeune et très jolie, s'enquiert de l'état d'achat et nous lance quelques sourires des plus gracieux. Mais les contractions n'arrivent pas, on remet de l'ocytocine dans la perfusion. Vers midi, le rythme du cœur de Willow s'accélère enfin. Willow prend sa première et dernière tétée au sein. Asha a besoin d'une épisiotomie avant de quitter l'hôpital. 2 heures plus tard, l'épisiotomie n'est toujours pas faite. Elle ne le sera pas avant que nous quittions la salle d'accouchement. Ensuite, tout ira très vite. Quelqu'un éteint la lumière et la jeune et souriante sage-femme se rue sur le père, lui arrachant Willow des bras. Paul et Asha se précipitent vers la porte. La police leur barre la route.
Just be careful, there's a child snatcher in here.
Les assistantes sociales disparaissent avec Willow.
La bonne des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant.
C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis.
Welcome to St. Pancras International. This is a safety announcement.
Sophie est analyste financière pour une grande banque française. Nous la rencontrons au départ de l'Eurostar, enceinte et munie d'un aller simple pour le continent, où son compagnon la rejoindra un peu plus tard. Un surcroît de travail dans les derniers mois de sa grossesse avait mis leur couple sous tension. Quelque peu déprimée, elle s'était confiée à la sage-femme, déclenchant ainsi la machine infernale et l'entrée en scène d'une assistante sociale.
J'ai trouvé ça très bizarre qu'elle veuille que je signe quelque chose. Donc déjà, ça m'a pas mal inquiétée. Et j'ai commencé à dire que de toute manière, moi, je voulais partir en France pour être avec ma famille et avoir leur support, puisqu'elle me disait que le problème, c'est que j'avais pas assez de support en Angleterre. Et en fait, au lieu d'être contente, la personne a réagi en disant qu'elle allait avertir les autorités en France. J'ai eu l'impression qu'ils essayaient de me manipuler. Ils ont commencé par dire qu'il fallait que je quitte mon partenaire, que le problème c'était lui. Mais plus tard, ils ont dit qu'en fait le problème c'était moi. Ça partait dans tous les sens. Et ils essayaient vraiment de me faire dire pendant plus d'une heure que j'étais abusée. Et donc elle a commencé, l'assistante sociale, à écrire, à imaginer une espèce de fiction où mon bébé pleurerait et où je ne m'occuperais pas d'elle parce que je me suis disputée. Donc en fait, je négligerais ses besoins primaires. Enfin, une espèce de délire, quoi. Ils m'ont donné des notes de 1 à 5. Enfin, le niveau d'inquiétude, 5 étant le plus gros. Et en fait, ils m'ont mis 5 partout. Donc en santé mentale, j'ai 5. L'environnement, alors que la personne a été dans mon appartement, a vu que tout était prêt pour l'enfant et tout, elle a mis 5. Et en fait, après, j'ai vu que ce qu'elle avait mis, c'était que j'allais faire une dépression post-natale. Ça ils m'ont répété au moins 10 fois, quoi. Et puis l'idée, le deuxième souci, c'était le risque que je parte accoucher en France. Et en fait, la première sage-femme est venue me voir avant que d'autres sages-femmes passent pour me dire: s'il y a des gens qui viennent vous parler, dites que vous avez le mal du pays. Insistez surtout sur le fait que vous avez le mal du pays. Comme moi, je ne connaissais rien, j'ai rien compris sur le moment. C'est a posteriori, j'ai compris qu'elle essayait de peut-être me prévenir contre un éventuel danger.
Check-in is now open for train 9148.
Parents. Les parents ne collaborent pas avec les services sociaux. Ils ne sont pas francs et honnêtes. Comment voulez-vous qu'ils soient francs et honnêtes avec un travailleur social qui les décrit en tout point négativement ?
Et c'est un travailleur social qui le dit. Après 20 ans dans les services sociaux, Peter Dahl s'est mis à son compte pour assister les parents au tribunal. Il nous livre quelques ficelles du métier.
Once a parent in those circumstances becomes depressed.
Lorsqu'un parent est déprimé par la situation, le travailleur social utilise cette dépression comme une preuve que l'enfant ne peut retourner chez lui. Si on prescrit aux parents un antidépressif, il dira que l'enfant ne peut pas être retourné à un parent sous antidépressif. Il engagera un psychologue ou un psychiatre qui conclura que le parent a besoin d'une thérapie d'un an ou deux. Et bien sûr, l'enfant ne peut pas rester dans l'attente. Cet argument fait partie de la routine. La plupart du temps, les parents ne peuvent gagner quoi qu'ils fassent.
Comme une bête traquée, il galope dans la nuit.
Quand ils placent les enfants en famille d'accueil, ils commencent à avoir des séances avec l'enfant pour lui inculquer un nouvel état d'esprit critique contre ses parents. Et cela peut amener l'enfant à dire qu'il ne veut plus de contact, qu'il ne veut pas retourner à la maison. C'est du lavage de cerveau.
Qu'est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit.
Les bénéfices de l'adoption sont en fait parce que l'enfant passe dans la classe moyenne. L'éducation, le futur job, la santé sont en rapport avec la classe sociale. On a affaire à de l'ingénierie sociale. Allez, l'Australie s'est maintenant excusée pour avoir pratiqué l'adoption forcée durant 30 ou 40 ans. Nous ferons des excuses dans 30 ou 40 ans, mais pourquoi agissons-nous ainsi aujourd'hui? Nous savons que c'est mal.
En
2012, les familles ont commencé à organiser des conférences sur l'adoption forcée auxquelles se présentent parfois des visiteurs inattendus, tel Charles, un travailleur social recruté du Zimbabwe par les Britanniques en 2001. L'adoption forcée, il l'avait déjà vue dans son pays.
Dès qu'un enfant de race mixte était né, on l'enlevait et on le plaçait. Nous étions obligés de le faire.
Et ici, que se passe-t-il? Charles n'est pas prêt à faire trop de révélations, mais il nous parle du rôle des écoles dans cette chasse aux sorcières.
C'est la règle. Un enfant qui présente la moindre égratignure fait l'objet d'un plan de protection. J'ai en tout cas l'impression que tout le système est corrompu, et ça, ça me met mal à l'aise.
Chaque école a un professeur qui fait l'objet d'un entraînement particulier. On l'appelle le professeur désigné, the named teacher, nous explique Rose, qui a quitté Bruxelles pour enseigner les sciences naturelles dans une école britannique.
Ça, c'est souvent dans les départements de sport. Quand tu vois par exemple un enfant qui a un bleu, ils doivent aller parler au même teacher.
Parfois, des adolescents croient pouvoir profiter du système à leur manière.
Moi, je les connais. Ils viennent à l'école, ils disent « Oh, on ne s'entend pas bien avec nos parents. Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Mensonge. Et des fois, après quelques mois, on réalise qu'ils ont menti et c'est trop tard.
L'arme suprême des services sociaux sont les interviews d'enfants par eux-mêmes ou par la police. Nous rencontrons le professeur de psychologie Michael Lamb, chargé d'expliquer aux professionnels comment utiliser ces interviews et aux juges comment les comprendre. Il ne nous cache pas sa surprise quand nous décrivons des cas d'injustice dans le système, mais admet que l'interview des enfants est une lame à double tranchant.
Well, they should be used in...
Elle devrait être utilisée chaque fois que vous essayez d'obtenir une description détaillée de ce qu'a vécu un enfant. Cela peut être un viol, cela peut être quelque chose qui semble anodin à l'enfant, mais qui en fait est déplacé. L'interview est basé sur le processus cognitif lié à la faculté de décrire son expérience. Et trop souvent, quand un adulte questionne un enfant, il lui parle plutôt que de l'écouter. Et sur le transcript de l'interview, on peut voir de longs paragraphes issus de l'adulte et un mot issu de l'enfant. Ce n'est pas la bonne méthode pour apprendre ce qui s'est passé.
Mom, you know you're not going to be allowed in.
Tous les enfants sont calmes et vont.
Michel, une autre maman accusée de tendance suicidaire après avoir perdu l'équilibre adossée à la fenêtre d'un premier étage. Sa fille de 3 ans, Angel, sera adoptée.
I'm supposed to cram a lifetime of stuff. A lifetime of stuff in 60 minutes.
Michel s'est juré de ne pas pleurer durant le bye-bye contact auquel sa propre mère n'a pas le droit d'assister. Dans l'entrée du centre de contact, un panneau coloré indique « Des parents pour la vie ».
Right. Oh, right, now. Which one's the girl's there?
Une caméra cachée nous révélera l'ampleur du sourire d'Angel à la vue de sa mère. L'entier du contact se passera à jouer comme si de rien n'était sous les yeux de deux surveillantes. Le bye-bye contact signifie aussi le hello à un cauchemar sans fin.
Qui fait la chasse à l'enfant.
Ce n'est pas du droit criminel, du moins en théorie. On n'essaye pas de punir les parents en prenant leurs enfants ou en les faisant adopter. On essaye de protéger les enfants du risque de préjudice significatif qui a été identifié comme possible.
Le professeur de droit familial Brian Sloan a expliqué la loi britannique sur l'adoption à la conférence du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne. Mais il nous confesse que lui-même n'est pas un fan de l'adoption.
Le mot « probablement » veut seulement dire une possibilité. Il y a donc moins de 50% des chances que le préjudice se produise et vous n'avez pas besoin de démontrer qu'il se produira. Ce qui constitue un plafond d'intervention plutôt bas. Parce que les tribunaux ont une vision étriquée et individualiste de l'aide sociale, ils ne prennent pas en compte l'intérêt de l'enfant à long terme de rester dans sa famille naturelle. Et dans la loi anglaise, l'enfant n'a pas à consentir à son adoption, quel que soit son âge, ce qui est vraiment étonnant. En fait, ce sont des personnes comme Martin Nare qui influencent vraiment l'agenda et il est inconditionnellement pro-adoption.
Martin Nare, surnommé le tsar de l'adoption, lobby numéro un du gouvernement en la matière, a décliné notre requête d'interview par un email cinglant. Vous ne faites pas partie des journalistes qui m'intéressent. Le Collège du Travail Social accepte une interview, mais au rendez-vous, la directrice nous prie de fermer le micro. Nous voulons d'abord savoir comment vous représentez les travailleurs sociaux, justifie-t-elle. Nous lui montrons les rapports pour lesquels nous possédons des preuves de malversation. Elle refuse de les lire car ce sont des exemples individuels. Nous nous tournons alors vers le syndicat des travailleurs sociaux qui nous refuse l'accès à sa porte-parole mais nous envoie rencontrer Azra, une assistante sociale affectée à la présentation online des enfants placés par Adopt UK Child, une agence d'adoption gérée par une société anonyme. Nous la trouvons en plein travail.
C'est la première ligne.
Oui, c'est la ligne en dessous. Oui, vous voyez là où ils disent parfaite. Vous mettez plutôt la famille qui convient. Non, ne mettez pas idéal. Autrement, ils vont chercher l'enfant parfait et il n'y a pas d'enfant parfait. Non, juste une photo. Et faites un copier-coller de ce qu'elle a dit sur son expérience d'adoptante, qu'elle encourage les gens à adopter. Ça, c'est vraiment important. Je vous rappelle dans une demi-heure, hein, je dois vous laisser maintenant.
Every year there are around 4000 children who need to be adopted in the UK and one little boy is 6-year-old Daniel.
La publicité pour l'adoption se fait aussi à la télévision.
We need to take more children away from inadequate parents. We need to cut all biological ties and give them as soon as is humanly possible to a mum and dad who really really want them. And I'm talking about children who are being neglected or living in a family that's clearly failing them.
Where you're going to someone's house and
Quand vous allez chez des gens dont on vous a signalé qu'ils ne s'occupaient pas bien de leur enfant, par exemple, ils boivent, il n'y a rien dans le frigo, les parents sont drogués, l'enfant mange de la nourriture pour chien, et que pendant des semaines et des semaines, on ne lui a rien donné à manger. Ça, c'est le type de négligence dont nous parlons, l'extrême cruauté. Je fais ce métier depuis 16 ans. Et je n'ai jamais vu que l'on retire un enfant à des parents qui s'en occupent. Jamais, jamais. Nous avons des journaux dits tabloïdes. Et ils font du sensationnel, du sensationnalisme, avec des histoires d'enfants enlevés de force et des parents qui se sont fait avoir. Mais ça, c'est très, très, mais très, très rare. Vous parlez d'injustice, ça peut arriver dans tous les domaines, pas seulement dans le travail social.
Nous posons sur la table un dossier exemplaire, mais Azra refuse de le lire.
Ce n'est qu'une version des choses, n'est-ce pas ? Ce n'est qu'une version. Vous n'imaginez pas que j'aille commenter le cas d'une personne. Allez donc parler à celui qui l'a écrit. Je ne comprends pas pourquoi vous m'en parlez, je ne comprends vraiment pas. Si vous voulez des réponses à cela, nous avons des avocats qui défendent les parents.
Mais Azra nous explique que le gouvernement a coupé les fonds qui alimentent le travail préventif sur les parents difficiles, ce qui oblige à prendre plus d'enfants. Et cela est vrai, mais une adoption coûte 43 000 euros aux contribuables. Il y a 67 000 enfants sur le marché britannique. Cherchez l'erreur.
Longtemps après.
Deux familles adoptives assistent à une conférence sur l'adoption forcée parce que leurs enfants adoptés sont perturbés au point d'être violents. Ils veulent en savoir plus sur ce qui se passe du côté des parents naturels.
À Adoption UK, ils ont ce qu'ils appellent la part du gâteau. C'est quand vous rencontrez d'autres familles. Avant que les enfants aient été retirés de leur famille, on nous a montré des photos.
La nôtre, c'était une adoption forcée. Ils jouent avec l'émotion des familles. Comment pouvez-vous savoir quand cela vient des services sociaux ? Tout ce que nous avons eu, ce sont leurs rapports. J'ai lu des choses comme « la mère ne coopère pas avec les services sociaux ». Et franchement, je peux comprendre pourquoi. Ma fille est prête à tout pour voir sa mère, prête à tout pour voir ses frères et sœurs.
Il y a 3 ans, elle a donc décidé d'aider sa fille à retrouver ses parents naturels. Les services sociaux la lui ont repris.
C'est probablement le plus gros scandale caché. Et je peux vous dire que des gens que je connais ne le croient pas. Ils pensent que vous êtes fou. Et c'est cela l'obstacle que nous devons dépasser.
Lucy Allan est une avocate du travail, son mari est trader à la City. Ils vivent à une centaine de mètres du vice-premier ministre Nick Clegg et elle espère devenir députée. Un jour, surmenée, elle consulte son médecin. Et une de plus, dénoncée aux services sociaux comme suicidaire. Le psychiatre qu'ils engagent ne la rencontre pas, mais écrit qu'elle risque de tuer ses enfants. Elle paye alors un autre psychiatre pour sa propre défense, lequel affirme qu'elle ne présente aucun danger pour ses enfants. Plus tard, elle découvrira le nom du psychiatre auteur du premier rapport. C'est le même que celui qu'elle a consulté en privé.
Ils ont dit que j'avais 7 frères et sœurs. Or, j'ai une sœur et une autre qui est morte. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela faisait partie de cette famille chaotique qu'ils essayaient d'inventer ? Mon fils, par exemple, ils lui ont demandé de décrire une journée normale. Il leur a dit « Quand je reviens de l'école, je demande à ma maman comment ça va ?» Et ils écrivent, de manière quotidienne, ils s'interrogent sur le bien-être de sa mère. Cela montre son anxiété en ce qui la concerne. Donc, elle a dû lui dire qu'elle allait se suicider.
Mais Lucie faisait aussi partie d'un panel d'adoption, le panel qui décide sur rapport des services sociaux qu'un enfant peut être adopté et qui coûte dans les 6 000 euros par session.
Nous ne savions pas que la procédure au tribunal, c'est parce que les familles s'opposent à l'adoption. Je croyais que c'était juste pour la légaliser. Le plus souvent, il y avait 15 ou 16 personnes présentes au panel. C'est censé être un panel indépendant. Mais vous y regardez de plus près et beaucoup d'entre eux travaillent pour les services sociaux d'un autre conseil municipal. La présidente du panel était payée 600 euros par session, mais elle était un membre indépendant des panels de plusieurs autorités locales. Donc, c'était un métier.
Combien d'entre vous ici sont à la limite du désordre de la personnalité? Combien?
Ce désordre aux mille facettes est diagnostiqué sur presque tous les parents en passe de perdre leurs enfants. John Pinschoff, psychologue et expert légal, est co-auteur d'un rapport sur l'incompétence et la malhonnêteté qui courent dans sa profession.
Borderline personality disorder implies...
À la limite du désordre de la personnalité, cela suggère que le cerveau est malade. C'est là où les psychologues diffèrent. Pour moi, cela ne veut rien dire. Je n'ai jamais employé cette expression et ne l'emploierai jamais.
Mais les parents sont bien traités comme des malades si nous en jugeons par leurs ordonnances antipsychotiques à gogo, doses maximales et même cocktails de deux ou trois différents types, y compris pour les femmes enceintes, du simple Valium au traitement contre la schizophrénie. La plupart ont en commun quelques victimes mortelles dans l'armée américaine et un risque de suicide signalé par le laboratoire. Teresa Cooper est l'auteur d'un livre sur Kendall House, une institution où elle a été élevée après être retirée de sa famille. Avec les autres jeunes filles, elle a été forcée d'avaler des antipsychotiques. À première vue, le but était de les abrutir à des fins sexuelles. Mais Teresa a toujours soupçonné que les viols étaient un effet et que la cause du problème venait d'un voisin, Glaxo Wellcome, fabricant des médicaments.
Ça, c'était mon dossier à Kendall House. Vous pouvez voir, c'était tous les jours. Petit déjeuner, médicaments pris, déjeuner, médicaments pris. C'était chaque jour de la semaine, pas un jour sans drogue.
Teresa découvrira que les 23 pensionnaires de Kendall House ont toutes eu, comme elle, des enfants affectés par des défauts congénitaux, du palais fendu aux maladies osseuses.
Tous les dossiers des filles avaient disparu. Quelqu'un est tombé dessus vers 1980, et puis j'ai cherché les filles et je les ai retrouvées. Le gouvernement a déclaré qu'il ne ferait pas d'enquête sur les overdoses administrées aux filles parce que ce n'était pas un problème du gouvernement, mais un problème médical.
Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement.
Trouver un psychiatre opposé au traitement chimique des névroses et en même temps expert légal n'est pas chose aisée. Nous obtenons un nom, Bob Johnson.
Every single psychiatric drug.
Tous les antipsychotiques font plus de mal que de bien. Diabète, mort prématurée, lésions neurologiques, ils sclérosent les tissus cérébraux, prolongent la maladie.
Pour lui, les laboratoires pharmaceutiques n'ont qu'une responsabilité indirecte sur le traitement des familles au sein du système.
Il y a de l'argent en jeu, mais ce n'est pas le problème principal. Le problème, c'est l'idéologie. Nous voulons être comme des médecins qui traitent un diabète. Le danger de l'argent est plutôt dans la recherche. Les laboratoires pharmaceutiques financent les recherches sur les médicaments si elles concluent en leur faveur. Dans le cas contraire, ils coupent les fonds. C'est donc l'information publiée par les universités qui est erronée. Cela fait 30 ans qu'on a des psychiatres qui viennent de la pharmacie. Certains parents ont des blocages issus de l'enfance qui les empêchent d'avoir une relation saine avec leurs enfants. Vous ne décidez pas que le blocage est permanent, vous cherchez l'origine du blocage. Mais chaque fois que vous séparez un enfant de ses parents, c'est la déprivation parentale, c'est le rejet parental. Et l'effet est toujours néfaste, quelles que soient les circonstances.
Always damaging.
Tease de l'amour,
bêtise d'amourette. Tous les enfants sont des poètes.
Lynn Reynal, criminologue à l'université de Liverpool, s'est intéressée aux tribunaux familiaux après avoir constaté que les pupilles de la nation remplissaient les prisons.
Beaucoup de directeurs des services sociaux sont aussi au conseil d'administration de l'Association britannique pour l'adoption et l'accueil en famille. Donc, une personne qui porte plusieurs casquettes peut à la fois décider de retirer un enfant et décider de son avenir en tant qu'opérateur du secteur privé. Les juges et même les présidents du tribunal familial peuvent aussi être membres de ce conseil d'administration. Et l'agence qui représente les enfants au tribunal, qui est censée être indépendante, a aussi un dirigeant commun avec l'association pour l'adoption.
Dans sa campagne pour se faire élire commissaire de police, David Gall annonçait en toute simplicité l'emprisonnement de juges familiaux. Sur la base de 1200 plaintes, Gall enquête sur les avocats qui, soutenus par des juges, poussent les femmes en instance de séparation à accuser leur ex-partenaire de violence, car cette accusation déclenche automatiquement l'aide légale, soit quelques milliers d'euros pour l'avocat.
We have numerous precedents for...
Ces chaînes de corruption entre différentes agences, les tribunaux et les métiers du droit, ce n'est pas nouveau. La relation entre les juges et les différentes chambres d'avocats est des plus intimes. Et c'est le juge qui est en accord avec la tendance dominante qui donne l'affaire à l'avocat. Les gens qui auraient le pouvoir de réagir sont eux-mêmes dans l'industrie du droit familial. Donc, il y a peu de chances qu'ils contestent ce qui les avantage. En vérité, les services sociaux de l'enfance ont beaucoup plus de pouvoir que la police. Le profit génère l'exercice. Cela n'a rien à voir avec l'intérêt supérieur de l'enfant et ce type de cliché. C'est juste une question d'argent.
En 2012, l'agence de famille d'accueil NFA a été vendue par Sovereign Capital à Graphite Capital. Bear Capital possède 40 maisons pour enfants. Quant aux petites agences d'adoption ou de famille d'accueil, elles sont les start-up du 21e siècle. Jen et Peter, un couple d'âge mûr, décident de fonder la leur. Ils s'informent auprès du comptable de Core Assets, une agence de famille d'accueil entrée sur le marché international.
Ils font dans les 167 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont 4000 enfants. Et il y a 6 ou 7 ans, ils ont décidé de racheter les parts minoritaires d'une demi-douzaine d'associés. Et la banque leur a prêté pour cela 42 millions d'euros. Pour vous donner une idée, les agences demandent en moyenne 960 euros par semaine pour un enfant. Et elles paient la famille d'accueil 420 à 480 euros. Il vous faut donc un certain nombre d'enfants pour que ce soit rentable. Si vous avez 10 enfants, cela fait 4800 euros par semaine, soit un peu plus de 19 000 euros par mois.
Ça va, on pourra payer la banque.
Avant, ce genre d'organisation n'avait pas le droit de faire de profit. On a du mal à le croire, une agence sans profit. Une bonne chose, c'est que vous n'avez pas à payer la TVA parce que les enfants, c'est d'utilité publique. Et pour le lieu de travail, vous pouvez commencer de chez vous. J'ai par ailleurs une agence qui vient de démarrer et ils n'emploient personne parce qu'ils sont eux-mêmes des travailleurs sociaux. Oui, beaucoup se déplacent vers le secteur privé.
Vous avez dit qu'il est en hausse ?
Oui, il l'est. car le nombre d'enfants en famille d'accueil s'accroît.
Pourquoi ils ne confient pas les enfants aux grands-parents ?
Je ne sais pas. Ce serait mieux, c'est ce que font beaucoup de pays.
Le seul problème...
C'est qu'on n'aurait plus de business. C'est vraiment un sujet émotionnel, vraiment. En tout cas, tout cela aide, et en tout cas, merci aussi pour votre temps.
Jen et Peter ne veulent pas fonder une agence. Ils voulaient tout simplement savoir ce que leur petit-fils rapporte au secteur privé. Avec 960 euros par semaine et par enfant, on pourrait même éduquer les parents imparfaits. Professeur de politique sociale à la prestigieuse London School of Economics, Eileen Munro s'est vue confier une révision du système de protection de l'enfance par le gouvernement.
Nous avons deux standards de preuve dans nos tribunaux. Si vous poursuivez un parent criminel pour avoir blessé un enfant, il nous faut des preuves tangibles, car nous ne voulons pas envoyer un innocent en prison et préférons encore relâcher un criminel faute de preuves. Mais quand il s'agit de la sécurité de l'enfant, c'est le contraire. Nous préférons enlever un enfant pour rien plutôt que d'en laisser un en danger. Et les preuves d'abus sur enfants sont dures à trouver car il s'agit d'une activité privée.
Contrairement au reste de l'intelligentsia de la protection de l'enfance, Eileen Munro accepte de jeter un coup d'œil sur nos documents qu'elle qualifie d'exemple de mauvaise pratique. Elle nous confie qu'elle n'a pas eu accès à ce genre de dossiers parce qu'ils sont confidentiels.
L'injustice dans le système m'inquiète beaucoup. Le travailleur social médiocre voit le danger à la maison et ne le met pas en balance avec le danger de la séparation de la famille. Vous avez probablement aussi vu de mauvais directeurs de services sociaux. Mais il n'y a pas de solution simple. Il faut améliorer la compétence des professionnels et cela prend du temps. Si vous allez par exemple à Acne, ils sont capables de travailler avec les familles et de trouver une solution pour éliminer le risque. Leur taux d'enfants retirés est minuscule comparé au reste du pays. Et le bon travail coûte moins cher que le mauvais.
Les associations de défense des parents nous confirment que les plaintes venant d'Acné sont presque inexistantes. Nous lisons des commentaires acerbes de travailleurs sociaux contre leurs pratiques. Mais c'est avec des encouragements qu'ils déclinent notre demande d'interview. Eileen Munro estime-t-elle qu'un gouvernement britannique produira des excuses pour les décennies d'adoption forcée?
Je ne serais pas étonnée si une génération future juge la qualité de notre travail et le dommage terrible causé aux familles. Je crois que dans le reste de l'Europe, vous vous inquiétez plus les uns des autres. En général, vous aidez plus les familles. En Grande-Bretagne, nous sommes plus individualistes, donc nous aidons moins les familles. Mais même en Europe, vous vous dirigez vers un contrôle nuisible, ce qui est regrettable.
Et certes, en Suède, Finlande, Norvège, Allemagne, les familles subissent un contrôle parental aussi destructif et sur les mêmes méthodes qu'en Angleterre. Toutefois, l'adoption forcée n'y est pas légalisée. Elle l'est d'une manière détournée en Espagne et en Italie. Et en 2012, une loi sur les droits de l'enfant en Irlande et une autre sur la notion d'abandon en France pourraient ouvrir la porte à l'adoption forcée. Si le Royaume-Uni en est le précurseur, laissons le mot de la fin à une grande vedette de la télévision britannique, Denise Robertson, lors d'une conférence à Birmingham.
La dernière fois qu'elle a vu cet enfant, elle s'éloignait et la petite fille l'a rappelé. « Maman, est-ce qu'on a été vilain ? C'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer à la maison ? Je ne peux pas supporter de penser à cet enfant et à ce qu'il se passe dans son esprit. » Il y a une chanson qui dit « Je ne sais pas comment on va résoudre cela, mais par Dieu, nous devons essayer. En cet instant, je ne sais pas comment nous y arriverons, mais par Dieu, nous y arriverons. »
Tout autour de l'île, il y a de l'eau.
Un reportage de Florence Bellone, notre correspondante permanente à Londres, avec l'assistance technique de Jean-Marc Verzet. Florence Bellone qui nous fait l'amitié d'être en studio avec nous aujourd'hui. Bonjour Florence.
Bonjour Marie-Laure.
Alors ce qu'on entend très bien dans votre reportage, c'est l'énergie qui confine parfois à la rage des services sociaux britanniques de confisquer les enfants sur leur propre territoire. Ce qu'on entend beaucoup moins et qui prend une ampleur de plus en plus importante, c'est l'acharnement du Royaume-Uni maintenant à vouloir adopter aussi des bébés étrangers, c'est-à-dire des enfants d'expatriés au Royaume-Uni, sans chercher le consentement des pays d'origine.
Absolument. On n'est pas encore arrivé à les chiffrer, mais il y en a énormément. Cette année, je crois que j'ai rencontré à peu près une dizaine de Français dans ce cas-là. Un cas exemplaire, ce sont les services sociaux qui ont pris les 3 enfants d'une Française qui était accusée d'avoir giflé sa fille. Ils ont séparé les gamins. Seul l'un d'entre eux est confié à sa sœur à Paris, à la condition qu'elle soit supervisée par des assistantes sociales britanniques qui vont donc voyager à Paris pour cela pendant plusieurs années. La France, malheureusement, comme un certain nombre d'autres pays, ferme les yeux. Il y a eu l'an dernier un email du consul de France à Londres qui écrivait à l'avocat d'un papa français et lui disait nous intéressons la RTBF à cette affaire et il souhaitait, dit-il, éviter un scandale politique, ce qui en dit long sur les relations entre consulats dans ce domaine-là. L'association française SOS Parents Abusés indique d'ailleurs qu'en France, depuis la récente loi, on commence aussi à enlever des bébés à la naissance. Il y a au contraire des pays qui se battent, tels que la Slovaquie, pour récupérer les enfants de leurs expatriés. Ils en ont au moins récupéré 2, je crois 3, mais en tout cas ils ont demandé plus d'une centaine. Et apparemment aussi la République tchèque et la Pologne auraient demandé quelques enfants.
Et c'est comme ça qu'on voit de plus en plus souvent des parents qui s'exilent volontairement pour garder leur bébé en accouchant dans d'autres pays, parfois d'ailleurs en prenant des risques sanitaires. Et cette migration révèle évidemment des inégalités grossières dans le système britannique.
Absolument. Alors par exemple, on a eu 3 assistantes sociales qui ont voyagé en France et qui ont fait signer par un juge français le retour, je dis bien retour, d'un bébé de parents anglais, mais né à Cahors. Et donc, il s'agissait du retour dans sa résidence habituelle, un argument qu'un avocat britannique a démonté devant le juge en appel à Londres. Le Royaume-Uni n'a évidemment pas juridiction en France. Il a obtenu que le bébé soit renvoyé en France, pour le coup son véritable lieu de résidence habituel. La colère des services sociaux a été telle qu'ils ont enlevé ensuite, récemment d'ailleurs, les 2 enfants de sa sœur, restés en Angleterre, et les 6 enfants de sa meilleure amie, également en Angleterre. Autre cas fumant, une maman anglaise qui, elle, était partie en Espagne accoucher. 6 mois après, l'enfant avait déjà 6 mois, la police espagnole arrive, saisit cet enfant. Elle est convoquée au tribunal d'Almeria où on lui remet, sans audience ni traducteur, un document qu'elle ne comprend pas. Un petit peu plus tard, nous avons obtenu ce document, nous l'avons traduit. Il indique qu'un juge espagnol a ordonné la saisie du bébé et son placement dans une famille d'accueil locale. Également que la maman a 15 jours pour appeler cette décision. Pas un mot du Royaume-Uni, pas une mention, alors que le bébé en fait a été envoyé au Royaume-Uni 48 heures après avoir été saisie par la police. Elle ne risquait pas de pouvoir appeler la décision. Dans ces 2 cas, en France comme en Espagne, donc, nous nous sommes aperçus que les transactions sont passées par les consuls honoraires britanniques. C'est donc des choses qui se font un petit peu sous le manteau. Voilà, et le dernier cas que je citerai, parce que c'est presque amusant, c'est une autre maman qui est en France actuellement. Le rapport médical qu'on lui a donné en Grande-Bretagne indiquait qu'elle avait un rhésus négatif. La sage-femme lui a expliqué que si elle essayait d'aller accoucher à l'étranger, elle allait mourir. Et en France, le médecin a trouvé qu'elle est de groupe sanguin O+.
Alors ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que ce reportage qu'on a entendu aujourd'hui, c'est le 3e volet d'une série de reportages que vous avez consacré donc à cette volonté des services sociaux de confisquer leurs enfants à des familles jugées inaptes à les élever. Ce sont des reportages dont les 2 premiers volets, en tout cas, ont suscité pas mal de vagues déjà en Grande-Bretagne, qui vous ont valu des prix aussi, et qui ont suscité aussi un intérêt ici en Belgique, puisque c'est en entendant l'un de ces reportages qu'un couple de Belges a décidé de faire quelque chose. Ce couple s'appelle Michel et Georges, on ne va pas donner le nom de famille parce que la prudence est de mise. Alors Michel, c'est vous qui avez en quelque sorte initié un peu le processus puisque vous avez entendu ce reportage. Et alors comment vous avez pris la décision de faire quelque chose ?
Eh bien, nous avons, après avoir entendu l'émission à la radio, nous avons contacté la journaliste responsable de l'émission. On s'est proposé pour peut-être accueillir en cours de route un couple dans la difficulté. Et alors, au mois de juillet de l'année dernière, au début juillet, à 6 heures du matin, on a été réveillé par un coup de téléphone qui nous disait, voilà, nous sommes devant chez vous et... On a fait entrer le couple à la maison. La maman, on voyait bien qu'elle était très, très fatiguée. Elle était sur le point d'accoucher. Donc, j'ai dit à mon mari, ben, il faut vite aller à l'hôpital parce que ça ne va pas tarder. Et de fait, 2 heures après, la petite fille était née. Et voilà, tout le monde était heureux. Et...
Peut-être que vous pouvez expliquer, Georges, qu'est-ce qui s'est passé par la suite?
Oui, tout d'abord, le personnel de l'hôpital nous a bien aidés. Et nous avons reçu un document qu'il fallait... présenté à la commune pour déclarer la naissance. Et c'est là qu'on a commencé à se rendre compte qu'il commençait à y avoir des problèmes. C'est-à-dire que pas moyen de déclarer la naissance. Et alors quand elle est sortie de l'hôpital, donc le troisième jour, nous sommes allés à son ambassade. Et là, à notre grande surprise, l'ambassade n'a rien fait pour aider sa concitoyenne. Cette ambassade n'était absolument pas consciente que sa concitoyenne était en grande difficulté. Alors ils ont décidé, le couple a décidé de poursuivre, sans avoir déclaré le bébé, ben, ils ont traversé un de nos grands voisins, ils se sont retrouvés dans leur pays, dans le pays où elles voulaient que ce soit la citoyenneté de ce bébé soit reconnue, et ils sont arrivés là, et finalement, après une dizaine de jours, et nous avons appris que, sur place, ils ont fait le nécessaire, et maintenant, tous ces papiers sont en règle.
Alors, pendant le temps où vous étiez avec cette maman et son compagnon, vous avez pu vous rendre compte des raisons pour lesquelles les services sociaux les menaçaient, hein, de confisquer leur enfant. Est-ce que ces raisons vous ont paru tenir la route quand ils vous l'expliquaient?
Non. Le papa, c'était un citoyen britannique, possédant un passeport, ce qui est très rare pour un citoyen britannique. C'est la raison pour laquelle il a pu quitter aussi facilement l'Angleterre. Franchement, ce monsieur qui était un véritable malabar, avec des mains qui étaient plus grandes, c'est bien simple, quand il tenait le bébé, ben, le bébé tenait quasi dans sa main. Il paraît qu'il était violent. Sa compagne était une maman... tout était prêt. La maman, manifestement, a reçu... Parce qu'elle a donné des coups de fil, ils ont donné des coups de fil devant nous en Angleterre. Lui et elle, on se rend compte qu'ils avaient des avis divergents, parce qu'ils avaient des citoyens britanniques qui, de l'autre côté, lui disaient « Reviens, on va s'occuper de ton bébé ». Et de l'autre côté, il y en avait qui lui donnaient des conseils « Bien, fais bien attention, si tu rentres en Angleterre, on va te prendre ton bébé ». Donc, vous imaginez cette dame qui était tiraillée. Et lui, la même chose. Lui, son but, c'était de retourner en Angleterre et de se battre devant les tribunaux pour garder son enfant. Et j'ai découvert que lui aussi avait eu des problèmes avec ses enfants, qu'on lui avait pris ses enfants. Pourquoi ? Parce que, soi-disant, il était violent.
Et vous savez, aujourd'hui, la raison pour laquelle on le taxait de violent, c'est parce qu'il avait un frère dans le milieu de la boxe.
C'est un monsieur qui, ne cachons pas, est de peau noire, malabar. C'est bien simple, il faisait le garde du corps pour des potentats arabes qui venaient passer leurs vacances sur une plage extrêmement réputée, leur ville d'ailleurs, en Angleterre. Et de fil en aiguille, un jour, il m'a dit « Viens voir avec moi ». On est allé sur mon PC, et sur mon PC, il a tapé le nom de son frère. Et son frère a été champion du monde de boxe pendant 6 ans. Et en plus de ça, j'ai découvert, pas plus tard que hier, que son frère a eu également des problèmes avec la SS. C'est tout. Je ne saurais rien dire de plus, si ce n'est que j'ai vu un papa et une maman qui ont soigné leur enfant pendant 3 jours. Ma femme et moi, nous n'aurions pas su faire mieux avec nos 4 enfants.
Florence, par la suite, vous aussi, vous avez cherché à contacter cette jeune femme, ou en tout cas de rester un peu en lien avec vous. Comment ça s'est passé ?
Donc en fait, oui, j'ai un petit peu découvert le reste de la situation. Ce couple avait déjà deux enfants qui avaient été enlevés et les parents avaient décidé de laisser l'enfant à la famille de la maman ou que quelqu'un de la famille viendrait en France parce que c'est plus près de la Grande-Bretagne pour garder le bébé pendant que les parents retourneraient se battre au tribunal en Grande-Bretagne. Là, il y a quelque chose qui a tourné vinaigre que j'ai vu assez fréquemment, c'est que les services sociaux ont forcer les parents à se séparer ou ils ont en fait réussi à semer la zizanie dans le couple. Je crois que Georges et Michel pensent que c'est plutôt une fausse séparation pour les avoir vus ensemble. C'était en fait un chantage, c'est-à-dire on dit à la maman, si vous quittez le papa, vous aurez les trois enfants. Ce que je n'avais encore jamais vu, c'est que les assistantes sociales ont dit à la maman, si vous n'amenez pas le bébé en Angleterre, alors vous ne reverrez jamais les deux enfants. Et elle l'a fait. Elle a récupéré ce bébé après 6 semaines. Déjà, ça n'a pas de sens. Pourquoi on prend un bébé pour le rendre après 6 semaines? Donc, ça devait toujours être un chantage avec à la clé la survie du couple ou non. Et là, c'est une des premières choses qui se passe, c'est d'essayer de briser le couple en disant à l'un qu'il va récupérer les enfants. Alors, on a beaucoup de couples qui font semblant de se séparer. Il y en a un qui disparaît et l'autre qui dit oui, vous avez raison, c'était un violent, c'était un violeur, c'était un méchant. Donc, je l'ai quitté, vous avez raison, bon service sociaux, donc vous pouvez me rendre les enfants. 9 fois sur 10, les enfants ne reviennent pas. Et puis parfois, il y a des couples sous cette pression absolument énorme que subit la famille qui craquent, qui ne savent peut-être même pas pourquoi ils craquent, qui sont vraiment détruits. C'était le cas d'un couple de Slovaques, justement. Bon, maintenant, la Slovaquie a récupéré les enfants. Le papa et la maman sont rentrés, mais chacun de leur côté, parce que sous l'épreuve, la famille a explosé, littéralement. Mais ce chantage, toutes les formes de chantage les plus inimaginables sont une pratique courante dans les services sociaux pour empêcher les parents de partir ou pour les forcer à ramener les bébés nés à l'étranger ou à donner leurs enfants.
Mais ce qu'on a un peu de mal à comprendre, c'est les motivations des services sociaux britanniques à causer autant de dégâts finalement.
Absolument, parce que si on reste dans la logique de la protection de l'enfance, les services sociaux britanniques devraient appeler leurs homologues français, allemands, belges, ce que vous voulez, dire écoutez, nous avons une maman, nous pensons qu'elle ne peut pas être une bonne maman chez vous, nous vous la signalons, voilà maintenant débrouillez-vous, hein, puisque nous avons tous des services de protection de l'enfance. Mais non, ils veulent aller dans le pays, contrôler dans le pays et ramener l'enfant, comme si c'était un trésor de guerre. C'est un acharnement malsain et c'est bien là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec la protection de l'enfance.
Je peux vous demander, madame, ce qui vous est passé par l'esprit quand vous avez entendu ce reportage pour la première fois. Est-ce que c'était un problème dont vous étiez consciente ou bien vous tombiez des nues en entendant ce qui se passait réellement dans les services sociaux britanniques?
Ah, pour tomber des nues, là, on est tombé des nues. Et pas un petit peu. On ne peut pas s'imaginer, ça sort de l'entendement, qu'un gouvernement puisse se comporter comme ça avec ses citoyens. Surtout pour des raisons qui n'en sont pas. Ça nous a tout à fait retourné. C'est pour ça que on s'est proposé auprès de Florence Bellone de faire quelque chose dans la mesure de nos possibilités.
Et à aucun moment vous avez douté du bien fondé de votre démarche? Vous vous êtes pas inquiété de voir qui allait arriver chez vous?
Non.
C'était tout à fait secondaire?
Non. Oui, tout à fait secondaire. Oui. Quand on a vu le bonheur du papa et de la maman, et la réflexion que le papa a fait quand on est allé leur dire bonjour à la maternité, il nous a dit « Ah, en voilà au moins une que le gouvernement n'aura pas, ne nous prendra pas ». Et ça, je dois dire, c'est un grand soulagement.
Monsieur, c'est pour ça que vous avez voulu témoigner aujourd'hui aussi? C'est pour, en quelque sorte, lancer un appel à la conscience des gens qui écouteraient ce reportage pour qu'ils fassent, bon, c'est pas la même chose que vous, mais au moins quelque chose?
Ça fait depuis des années que je pense que notre monde est en train de dégénérer. On essaye de faire du business avec tout. Actuellement, je suis convaincu que tout ce problème avec les enfants, c'est pour faire du business. Je suis convaincu qu'il y a un problème. Et tout devient du business maintenant. Nous devons absolument réagir. Nous ne pouvons pas laisser faire des choses pareilles. Ce bébé, quand vous avez vu le bonheur de ses parents, je suis content. On a réussi au moins une semaine à les rendre heureux. Et ça, c'est la principale satisfaction qu'on a.
Merci beaucoup en tout cas, parce que je sens que vous êtes très émue encore maintenant, et c'est normal. Merci d'avoir eu le courage en tout cas de venir en nos studios pour nous livrer votre témoignage. Merci à tous les deux. C'était Transversal, le magazine de reportage de la rédaction. Dans un instant, le journal de 13h, présenté par Jérémy Audouard, suivi du grand oral avec Arnaud Reussen. Très bon après-midi à vous, à l'écoute de la première, et à la semaine prochaine.